Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
L'édition du soir présentée par Sofiane Saouli. Sofiane Saouli, bonsoir.
Monela Radja, bonsoir à tous. Le président biélorusse en Algérie pour une visite officielle, Alexander Loukachenko, a été reçu par le président du Conseil de la Nation à son arrivée. L'Algérie et la Biélorussie souhaitent renforcer leurs relations, notamment économiques. Le président de la République a décidé un quota supplémentaire de 2000 passeports Hajj aux citoyens de plus de 70 ans qui ont participé 10 fois en sélection au tirage au sort. Une nouvelle opération leur est destinée samedi prochain. Les importantes décisions prises en Conseil des ministres continuent à faire réagir. Elle vient soutenir le pouvoir d'achat des Algériens avec la revalorisation de 4000 dinars, le salaire national minimum garanti dès janvier et renforcer le dispositif social qu'est l'allocation chômage. Des engagements du président de la République, les citoyens soulignent son impact sur le niveau de vie. Le secrétaire général de l'UGTR a expliqué la nature des effets de la hausse sur le salaire et le niveau de vie. Le ministère du Travail fait état de plus de contrôle pour les bénéficiaires d'allocations chômage. La réunion de haut niveau du processus d'Oran a couronné de succès, synonyme d'un intérêt croissant suscité par ce processus tant en Afrique qu'à l'international. Le ministre des Affaires étrangères l'a relevé en clôture des travaux aujourd'hui. Fin du débat ce soir au Conseil de la Nation sur le projet de loi de finances 2026 et le ministre des Finances intervient pour répondre aux questions soulevées par les sénateurs. On évoquera la question Razaoui, les Palestiniens qui continuent de subir les bombardements et raids de l'entité sioniste face à un manque de denrées alimentaires. Le festival du théâtre saharien se poursuit, un théâtre qui se met au numérique. Et puis, football et Coupe arabe et vert à la veille de leur rentrée en compétition face au Soudan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République de Biélorussie, Alexander Loukachenko, en Algérie pour une visite officielle. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger Ouali Boumediene par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri. Le chef de l'État biélorusse a reçu au siège de sa résidence lors de cette visite officielle en Algérie à Zeralda, le président de l'Assemblée populaire nationale ainsi que le premier ministre. L'Algérie et la Biélorussie souhaitent élever le niveau de leurs relations, notamment économiques. Sofia Boukalcha.
Les relations entre l'Algérie et la Biélorussie ont connu ces dernières années une dynamique politique et économique croissante, portée par la volonté ferme des dirigeants des deux pays de donner un nouvel élan à leur coopération et de multiplier les opportunités de partenariat. La visite officielle du président biélorusse en Algérie constitue à ce titre une occasion d'approfondir cette dynamique et de l'élever à un niveau supérieur, notamment à travers la conclusion de nouveaux accords et la mise en œuvre des projets conjoints dans divers domaines. Dans ce cadre, le Forum économique algéro-biélorusse a permis d'examiner les moyens de renforcer les partenariats économiques. 5 accords de partenariat dans les domaines commercial et industriel ont été signés. L'objectif est de rehausser le niveau des échanges commerciaux qui n'a pas dépassé 34 millions de dollars durant les 9 premiers mois de 2025. En avril dernier, les deux pays ont tenu la première session de la commission mixte algéro-biélorusse de coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Les deux pays sont également liés par un groupe d'amitié parlementaire destiné à faciliter le dialogue et la coopération législative.
Nouvelle décision aujourd'hui du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a décidé d'allouer un quota supplémentaire de 2000 carnets de Hajj aux personnes âgées de 70 ans et plus qui ont participé 10 fois ou plus au tirage au sort ordinaire sans succès. Le ministère de l'Intérieur a annoncé le tirage au sort exceptionnel dès samedi prochain à travers le pays. Les décisions prises en Conseil des ministres continuent à faire réagir. Des décisions d'importance qui viennent soutenir le pouvoir d'achat des Algériens, avec la revalorisation de 4000 dinars, le salaire national minimum garanti dès janvier prochain et le renforcement du dispositif social qu'est l'allocation chômage en l'apportant à 18 000 dinars. Des engagements du président de la République dans la rue de la capitale, les annonces et leurs impacts sur l'amélioration du niveau de vie des Algériens, salués par les citoyens rencontrés par Mayel Kems.
Les quelques citoyens rencontrés accueillent favorablement l'annonce faite par le président de la République, celle de l'augmentation du salaire national minimum garanti à compter du 1er janvier 2026.
Ça représente une bonne chose pour la société algérienne, pour le travailleur algérien. Donc ça lui permettra de respirer un peu, d'aspirer à mieux vivre et faire face au quotidien. On ne peut que remercier le président de la République pour cette décision.
C'est un avantage pour se permettre d'acheter des trucs pour leur enfant. Parce que l'argent, on le laisse pour le loyer, pour l'électricité, l'eau. Mais avec cette augmentation, 4 000 dinars, ça va nous soulager.
J'ai 20 000 dinars, 24 000, ça va. Je suis père de famille, 4 000 dinars, je suis en train de vous aider. On espère avec beaucoup plus, Inch'Allah. C'est une bonne initiative de l'augmentation du SMIC.
Dans le même sillage, l'État a approuvé une hausse de l'allocation chômage destinée notamment aux jeunes primo-demandeurs d'emploi de moins de 30 ans. Elle passera de 15 000 à 18 000 dinars.
Ça m'intéresse, je suis à la recherche d'un emploi. Si j'aurais été au chômage sans avoir de l'argent, ça aurait été compliqué. Donc comme ça, c'est bien. Déjà, avant, c'était bien, c'était à 15 000 dinars. Et là, ça a augmenté jusqu'à 18 000. Donc, on remercie le président de la République parce que c'est encourageant pour tous les jeunes.
Ces décisions visent à renforcer le pouvoir d'achat des ménages, à lutter contre le chômage et à stimuler la croissance économique.
Et à propos de l'allocation chômage qui sera portée donc à 18 000 dinars, et afin de garantir la transparence et un contrôle rigoureux, il sera procédé à des vérifications à travers les fichiers sectoriels entre le 22 et le 26 de chaque mois, date du versement de l'allocation chômage. Abdelali Daloua a été directeur de la promotion de l'emploi au ministère du Travail. Il l'avait expliqué sur nos ondes. Il était l'invité de Nalimel Mendil dans le magazine du 12-13.
Pour qu'il n'y ait pas une déperdition des deniers publics, il y a une opération de contrôle assidue. Et cette opération commence le 22 du mois. Elle va durer pratiquement 4 jours où il y aura un croisement entre les bases de données en intramuros, les bases de données des caisses de sécurité sociale. Et on a élargi cette opération de contrôle au ministère de l'Intérieur à travers le fichier national. Le deuxième, on a élargi cette opération de contrôle à d'autres secteurs, le ministère de l'Habitat, le ministère des Waqf. Le ministère accorde le qard. Et celui qui a bénéficié d'un dispositif public de soutien à la création n'ouvre pas droit. Il y a plus de 600 bases de données qui sont consultées pour que le 26 du mois, on arrive à arrêter la liste des bénéficiaires de la location chômage et verser cette allocation aux véritables personnes bénéficiaires.
La hausse du salaire national minimum garanti à 24 000 dinars dès janvier se répercutera, elle, sur l'ensemble des salaires, différemment selon les secteurs publics et privés, et surtout selon la santé économique des entreprises, a expliqué notre invité du jour, le secrétaire général de l'UGTA, Amal Takjout, répondait ainsi aux questions de Nesline Damou.
Il y a le côté simple de l'augmentation, c'est celui de dire on a augmenté les bas salaires. C'est le premier niveau des salaires qui a augmenté, ça veut dire c'est le minimum. Le minimum est une référence de calcul pour certains cadres. Le minimum est une référence de calcul, y compris dans les retraites. Et le minimum aussi, c'est une base de calcul dans les entreprises. C'est la manière de ventiler ces 4 000 dinars d'augmentation. On peut les reconsidérer en pourcentage et les appliquer dans les entreprises qui ont des capacités. On peut l'exprimer en montant de 4 000 dinars pour l'ensemble des salariés pour garder une aération de la grille de salaire et de la hiérarchie salariale dans l'entreprise. Et on peut aussi, dans les entreprises à difficulté, on y va de la première catégorie jusqu'à la dernière, on va essayer de ventiler les 4 000 dinars.
Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a lui aussi salué aujourd'hui les décisions prises par le président de la République au dernier Conseil des ministres. Il a souligné qu'elles reflétaient une vision claire pour renforcer la justice sociale. Dans un communiqué, la Chambre basse du Parlement a souligné par ailleurs le succès remarquable réalisé par l'Algérie à travers l'organisation de la Conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique, ainsi que du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité sur notre continent, relevant du processus d'Oran. Cela reflète la place importante de l'Algérie sur le plan continental, a estimé l'instance présidée par Brahim Bourali. Justement, le 12e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a pris fin aujourd'hui. Une totale réussite, une participation remarquable et un synonyme d'intérêt croissant suscité par le processus d'Oran, tant en Afrique qu'à l'international. Les défis sécuritaires et politiques discutés durant de deux jours. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est exprimé au terme de ses travaux Liester Rini.
Une influence qualifiée d'exceptionnelle par le ministre des Affaires étrangères qui voit dans cet engouement croissant un signe du poids grandissant du processus d'Oran sur la scène continentale et internationale. Ahmed Attaf.
Une telle participation qualitative et de haut niveau qui a réuni à la fois d'éminentes personnalités et un grand nombre de délégations constitue une preuve éclatante de l'ego grandissant et de l'intérêt accru que suscite désormais le processus d'Oran au niveau continental et international. L'Algérie ne voit dans cet élan renouvelé que source de fierté et moteur de motivation. Ce projet continental vise à unifier la voix africaine et renforcer son influence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et dans l'ensemble des forums multilatéraux.
Pour sa part, le commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, a insisté sur l'importance de consolider la position du continent dans les négociations internationales.
Cette réunion du processus d'Oran a été une très grande réussite, comme chaque année. C'est la 12e édition d'une série désormais bien établie. Nous avons exploré la dynamique actuelle, fait le point et tiré les leçons, et nous avons promu un agenda essentiel pour l'Union africaine, insistant sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies pour une Afrique forte, unie, résiliente et influente sur la scène internationale.
La prochaine édition du processus d'Oran devrait poursuivre ce travail de coordination pour porter une Afrique plus forte et plus audible sur la scène mondiale.
Parmi les présents, les invités de la capitale sur le processus d'Oran, le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Kakou Ouadja-Léon Adom, il a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de parler d'une seule voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, une voix justement exprimée par le groupe A3+, pour une Afrique forte, unie, résiliente et influente sur la scène internationale. On l'écoute, il est au micro de Radja Mesraghi.
Il est aujourd'hui essentiel de renforcer le rôle du groupe des A3+, au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, et de porter la voix de l'Afrique, d'y défendre nos positions, et de veiller à ce que les questions de paix et de sécurité sur notre continent bénéficient de l'attention, du respect et du traitement qu'elles méritent.
À retenir que la réunion du processus d'Oran, la réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui a pris fin aujourd'hui, a pour la première fois accueilli des représentants de pays élus au Conseil de sécurité de l'ONU en dehors du continent africain, à savoir le Bahreïn, la Colombie et la Lettonie. L'actualité est marquée ce soir par la clôture et la fin des débats à l'Assemblée, au Conseil de la Nation sur le projet de loi de finances 2026. Un débat qui aura duré deux jours avec l'intervention au terme des sénateurs, de celle des sénateurs des présidents de groupes parlementaires. Le ministre des Finances était au perchoir pour répondre aux questionnements soulevés ou questions soulevées par les parlementaires. L'actualité à l'étranger, en Palestine occupée, les forces d'occupation continuent à violer les clauses du cessez-le-feu en menant des raids et bombardements. Elle empêche également l'entrée d'aide humanitaire, une trentaine de martyrs ces dernières 24 heures. Témoignage depuis Gaza de la journaliste palestinienne de la Halzin. Elle en parle à Linda.
Avec la poursuite des bombardements et des violations de l'occupation, le ministère de la Santé à Gaza a annoncé que 32 Palestiniens sont tombés les dernières 24 heures, des raids et des bombardements qui ont ciblé le nord comme le sud de la bande. Pendant ce temps, les discussions se poursuivent pour la médiation sur la deuxième phase du cessez-le-feu. L'UNRWA prévient, elle aussi, du manque d'aide humanitaire, en particulier avec la pluie et le froid.
À Moscou, Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff ont débuté ce soir des pourparlers sur le plan américain pour une fin de guerre en Ukraine. La rencontre intervient après des pourparlers en Floride. Les délégations américaines et ukrainiennes ont discuté du calendrier électoral ukrainien, mais de la question aussi des garanties sécuritaires. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Abdallah Fahmy, contacté par la BBC.
Il y a une entente secrète entre Trump et Poutine. Il envoie Witkoff, en qui il a confiance. La Russie a déjà remporté la guerre. Trump en est conscient. C'est pour ça qu'il a enlevé la main de l'OTAN et de cette guerre. Et Zelensky n'a plus aucun choix. Où il se rend, à l'évidence, c'est un plan en 28 points, maintenant qu'on a ramené à 19 points, et qui s'est encore à discuter. Mais les Européens n'en veulent pas, parce que les Européens, pour eux, cet aveu de défaite les laisse démunis devant leur population. Ils ont détruit l'économie de l'Union Européenne pour une guerre inutile qui n'a aucun sens.
Voilà en ce qui concerne les discussions qui se déroulent ce soir à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Wilcox. La grogne gagne du terrain en France, une colère contre le budget en débat à l'Assemblée, notamment en ce qui concerne le volet des retraites, manifestations et grèves au menu des Français ce mardi. De Paris, Camélia Fatia.
De nombreuses mobilisations se sont déroulées dans les grandes villes à l'appel des principales organisations syndicales. À Paris, les autorités ont anticipé la présence de plusieurs milliers de manifestants avec de petits rassemblements de fonctionnaires devant leur lieu de travail ou devant les ministères. Les manifestants dénoncent les mesures d'austérité et affichent des pancartes sur lesquelles on peut lire « La précarité, ça suffit » ou « Pour un budget public digne ». Les syndicats s'opposent au projet de budget 2026 qu'ils jugent austéritaire. Selon eux, ce texte prévoit un nouveau plan social dans la fonction publique, le gel des salaires, la remise en cause des arrêts maladie et contribue à une perte continue du pouvoir d'achat. Les syndicats contestataires appellent à l'adoption d'un budget de progrès social, car cette journée doit peser sur le gouvernement et son projet de loi de finances qu'il qualifie de porteur de régressions nombreuses et graves. Cette mobilisation a entraîné des perturbations principalement dans l'éducation et certains services publics touchant les écoles et les administrations et dans une moindre mesure les transports et les hôpitaux. Paris, Camilla Fetiha, Al-Jeshan 3.
Chez nous, pour parler de défis de la dépollution des sites des explosions nucléaires français dans le Sahara, l'Académie algérienne des sciences et des technologies a organisé une conférence à ce propos en présence de la ministre de l'Environnement, mais aussi de membres de l'Académie, notamment le professeur Meftah Ali, qui a détaillé les étapes scientifiques qui doivent être menées ou parcourues pour traiter les zones contaminées. On écoute une au micro de Mehdi Haddaoui.
Défi, c'est de décontaminer. Les étapes, il faut d'abord faire un état de lieu. Deuxièmement, analyser en profondeur dans ce qu'il y a. Troisièmement, identifier les différents éléments radioactifs. Parce qu'on va y aller directement, nous, ce sont des bombes au plutonium. Et lorsqu'il y a une explosion au plutonium, quels sont les éléments qui vont rester, qui mettent le strontium, le césium. L'environnement aérien, ça a été interdit. Parce que la pollution, elle est partie jusqu'en Espagne, la Sicile, pour interdire les tirs aériens. On va essayer de voir comment réfléchir pour limiter les dégâts. C'est une méthode classique. D'accord. Maintenant, il faut qu'il y ait des scientifiques qui vont discuter de ça.
Et justement, en parlant d'effets ou d'accidents aussi industriels, cette fois-ci, une sécurité au cœur du Salon international pour l'industrie en Algérie, Sinara Exposition, là où des opérateurs algériens font montre de leur ingéniosité. Samia Aloun.
Des incidents, des inattendus qui peuvent survenir rapidement et briser la chaîne d'exploitation ou de production, d'où l'importance donnée au volet sécurité par plusieurs entreprises présentes à cet événement, comme celle qui active dans le domaine de l'oil and gas. Aladdin Kadiri, gérant de la SARL DSDP.
On a toujours été spécialiste dans la détection gaz pour sécuriser les sites industriels, le oil and gas, par exemple Sonatrach, les filiales de Sonatrach, ainsi que tous les sites de production, que ce soit sidérurgie, métallurgie, agroalimentaire, toutes ces usines travaillent avec du gaz. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés avec qui on travaille, par exemple l'ENAC, avec qui on a réalisé un grand projet pour sécuriser le pipeline.
Une occasion également pour les ingénieurs en informatique de plusieurs entreprises de démontrer leur savoir-faire technique en élaborant des solutions qui peuvent faciliter la gestion côté traçabilité et prise de décision stratégique. Nasreddin Limouchi, directeur et fondateur de la société Inabex.
Nous sommes là dans le salon Sinara. Pour
pour mettre en avant nos solutions de gestion pour les entreprises industrielles algériennes dans divers secteurs d'activité. On présente Afterwave, un ERP complet qui fait toute la gestion de la production, la gestion des approvisionnements, la gestion des stocks, la gestion des ressources humaines. C'est des logiciels fabriqués par des ingénieurs algériens. On fait de la conception, la réalisation from scratch.
Des conférences ont également lieu sur différentes thématiques, sécurisation des infrastructures sensibles ou encore la digitalisation dans la gestion de la sûreté et la sécurité des entreprises pour débattre des enjeux actuels et proposer des pistes d'évolution adaptées aux réalités du terrain.
Le Grand Sud algérien, un espace aux multiples facettes. En cette saison particulière, il est courtisé par les touristes, les guides, pour une découverte optimale, justement, doivent être formés. Une formation indispensable, justement, dispensée aujourd'hui au profit de représentants de 13 wilayas du sud du pays. C'était à El Oued, notre correspondant à Maldafer.
Lors d'une session de formation destinée aux guides touristiques des wilayas du Sud-Est, le Wali d'El Oued, l'Arabi Bahloul, a mis en avant l'importance du développement de l'agrotourisme.
On a sollicité le ministère du Tourisme et de l'Agriculture pour développer certains lieux, ce qu'on appelle l'agrotourisme, parce qu'on a beaucoup de petits périmètres d'un hectare qui étaient à un certain moment en dehors de la ville, mais actuellement presque, ils sont dans le domaine urbain. Donc on essaie d'augmenter le nombre de lits à travers.
Sur les projets en cours de réalisation, il ajoute.
Nous avons beaucoup d'hôtels et de campings en cours de réalisation. Et nous avons aussi une zone, sa viabilisation est programmée par le ministère du Tourisme qui va accueillir environ 10 à 15 structures touristiques entre hôtels et campings.
Plus d'une trentaine de guides touristiques ont pris part à cette formation, souligne Barir Sofiane, le coordinateur.
Il s'agit d'une session de formation organisée par le ministère du Tourisme au profit des guides touristiques, avec un total de 31 guides touristiques.
Les participants à cette formation ont été initiés à plusieurs aspects liés à leur profession. Précision de Amel Alali.
Le rôle, les obligations, les conditions pour avoir une carte de guide touristique. Du rôle très important que doit jouer le guide touristique dans la promotion touristique.
D'El Oued à Mardafour pour Algechin 3.
Le Sahara, justement, où on y reste, à Adral, justement, où se déroule le Festival international du théâtre saharien, un théâtre au loin de la vision traditionnelle. Les nouvelles technologies font leur entrée dans le monde du numérique. Le théâtre à l'ère 2.0, c'est d'Ali Fales.
Le numérique et la nouvelle technologie ont conquis le monde des arts et de la culture. De plus en plus, les artistes ont recours à des technologies nouvelles, comme la réalité augmentée, pour permettre au public de découvrir différents espaces théâtrales. Le scénographe et formateur Hafed Khalifa de Tunis.
Comment on peut créer une scénographie moderne à travers la création virtuelle, avec la technologie, un vidéoprojecteur, mapping. On peut même créer des formes de châteaux, des nature, soit pour les enfants ou pour les adultes. Même les lumières virtuelles à travers le data show peut créer des scénographies très différentes de ce que nous sommes habitués d'utiliser dans le théâtre.
Plusieurs stagiaires algériens s'intéressent à cette nouvelle méthode de développer la scénographie.
C'était magnifique parce que nous avions affaire à une sommité dans l'encadrement, un Tunisien d'envergure. On a fait un historique de la scénographie, puis on a entamé les matériaux, travail dans le sens de l'illustration d'un ensemble de concepts en scénographie, et surtout, on a abordé la technique du moment, à savoir l'infographie.
À 20h, vous avez rendez-vous avec la pièce Zahra Bilawarak d'Algérie, dans la ville de Tamantit, d'Adral, Sidi Ali Fares, Algechin 3.
Place au sport, au football, avec vous, Hamza Rahmouni, bonsoir.
Bonsoir Sofiane.
Hamza, bien évidemment, l'événement, c'est la Coupe arabe, où la sélection nationale des joueurs locaux effectue son entrée en lice. Ça sera demain face au Soudan.
Effectivement, Algérie-Soudan, demain, mercredi, à partir de 13h, une rencontre extrêmement importante pour la sélection algérienne qui est dans l'obligation de s'imposer pour se mettre à l'abri, bien évidemment, et surtout prendre une option pour la qualification en quart de finale de la FIFA Arab Cup 2025. Je rappelle, l'adversaire, le Soudan, avait déjà éliminé les Aprim algériens en quart quarts de finale du dernier Chan, c'était au tir au but. Et donc, ce sera un match avec un air de revanche pour les Algériens. Toujours en Coupe arabe avec aujourd'hui deux matchs disputés. L'Égypte et le Koweït ont fait match nul, un but partout. Et l'Arabie Saoudite qui mène au score 1-0 face à Oman, on joue la 67e minute.
Merci Hamza Lahmouni pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sidali Tobel. À retenir que Taha Lefgom était à la régie d'antenne, Kalimo Esdiq était à la console technique.